La revue de presse internationale, Camille Manière, bonjour.
Bonjour.
Le retour en grâce diplomatique de la Russie s'est joué cette nuit à Strasbourg.
Et plus précisément dans l'hémicycle du Conseil de l'Europe, cette institution qui regroupe 47 pays du continent élargi, qui défend les valeurs démocratiques et les droits de l'homme. Et cette institution, le Conseil de l'Europe, où la Russie n'était plus la bienvenue depuis son annexion illégale de la Crimée ukrainienne en 2014. Or donc, la nuit dernière, une majorité de pays membres du Conseil a approuvé le retour de la délégation russe dans l'hémicycle et de facto la levée des sanctions diplomatiques censées la punir pour son interventionnisme belliqueux en Ukraine. Et sans surprise, c'est à Kiev que l'on accueille le plus mal cette nouvelle. Le quotidien en ligne Ukrainska Pravda reconnaît une défaite cuisante pour la diplomatie ukrainienne qui avait tout tenté pour ne pas que les Russes reviennent siéger au Conseil de l'Europe comme si rien ne s'était passé en 2014 en Crimée et dans le Donbass. Mais le pire, vu l'Ukraine, c'est la manière dont s'opère ce retour, qui ne peut être vu autrement que comme une manière, comme un retour en force, pardon. Le site spécialisé sur les questions européennes, EU Observer, nous rappelle que les Russes, dont la participation au Conseil avait été suspendue, avaient ensuite menacé eux-mêmes de quitter le Conseil et donc de ne plus verser leur participation à son budget. Pour ne pas mettre cette menace à exécution, ils ont donc exigé et finalement obtenu que les mécanismes même de vote et de sanctions au sein de l'institution soient modifiés pour ne plus tout simplement risquer à l'avenir d'être sanctionnés.
Et à présent, c'est l'Ukraine qui menace de quitter le Conseil de l'Europe.
Mais il faut bien reconnaître qu'elle n'a pas le poids de son voisin et agresseur et que l'Europe, c'est en tout cas ce que comprend le quotidien de Kiev, Oboz Revatiel, ce matin, l'Europe donc a choisi la Russie contre l'Ukraine. Et pour illustrer cette nouvelle, l'allemande Süddeutsche Zeitung a choisi forcément une photo de Vladimir Poutine, léger sourire aux lèvres, en train d'applaudir ou peut-être même de se frotter les mains. C'est la photo donc que l'on retrouve dans la Süddeutsche Zeitung qui s'interrogeait avant le vote hier sur l'efficacité des sanctions contre la Russie. Sanctions qui depuis 2014 n'avaient, il faut bien le dire, pas fait bouger d'un iota Moscou en Ukraine. À présent, s'ouvre le temps du compromis avec les Russes, écrit Stéphane Ulrich. Un compromis défendu par la France et l'Allemagne avec cette idée, nous dit la Deutsche Welle, qu'en revenant au Conseil de l'Europe, la Russie s'expose aussi à ce que ses citoyens puissent demander à nouveau la protection de la Cour européenne des droits de l'homme dans les litiges qui les opposeront à leur État. Ce à quoi les Ukrainiens vous répondront que les condamnations de la CEDH n'ont jamais empêché les autorités russes de violer allègrement les droits civiques. Par contre, le message diplomatique, lui, est clair, selon le leader de la délégation ukrainienne à Strasbourg. Message très négatif, cité là encore par la Deutsche Welle, la radio publique allemande, qui dit à la Russie, ce message, il dit à la Russie, allez-y, annexez d'autres territoires de pays voisins, tuez-y autant de monde que vous voulez et vous vous en tirez toujours à bon compte.
Une zone grise est apparue, que la carte des télécoms asiatiques, et elle pourrait bien cacher un conflit particulièrement sanglant.
Oui, c'est en Birmanie que je vous emmène à présent et même dans l'état côtier de Rakhine ou Arakan au nord-ouest du pays. C'est la région des Rohingyas, ceux qui ont fui vers le Bangladesh voisin ces dernières années et ceux qui sont restés malgré les persécutions. Et cette région de l'Arakan, à lire The Guardian ce matin, cette région concentre les pires inquiétudes de l'ONU et des ONG déployées en Asie du Sud-Est. Depuis vendredi, les opérateurs de téléphonie mobile y ont tous interrompu leur service à la demande, à l'exigence même du gouvernement birman. Et si c'est inquiétant, c'est parce que cette région, toujours selon The Guardian, est ravagée depuis des mois par une recrudescence des violences entre communautés. Les autorités accusent l'armée de l'Arakan, qui se bat pour l'autonomie des hindouistes de la région, de multiplier les opérations de guérilla sanglantes, et l'armée birmane s'est lancée en représailles dans des opérations militaires non moins sanglantes pour étouffer ce début de guerre civile. Cette nouvelle flambée des hostilités, selon l'ONU, citée par le Guardian, aurait déjà fait des morts parmi les civils et aurait forcé à l'exil, au bas mot, 35 000 d'entre eux.
Mais il y a une autre dimension à ce conflit qui se déroule désormais en dehors des radars internationaux.
Oui, dans The National Journal des Émirats, on apprend que l'armée de l'Arakan se bat particulièrement contre plusieurs projets d'infrastructures qui menacent sa région. Les habitants, particulièrement pauvres de l'état de Rakhine, ne voient, nous dit-on, pas d'un bon œil d'abord la construction d'un pipeline chinois et puis cet autre chantier colossal négocié entre la Birmanie et l'Inde, la construction d'un carrefour de transport multimodal qui relierait le port indien de Kolkata à celui birman de Sitwe, la capitale de l'Arakan. toute la région serait ensuite traversée par une autoroute longue de 300 km à travers la jungle pour rejoindre au nord l'état indien de Mizoram, état complètement enclavé par le Bangladesh. Ces chantiers-là, les autonomistes de l'armée de l'Arakan n'en veulent pas, et à croire India Today, ils sont allés ces dernières semaines jusqu'à envoyer leur armée en Birmanie pour mener des opérations conjointes de nettoyage des foyers terroristes de l'Arakan. Il y a donc bien une dimension économique d'aménagement du territoire à ce qui nous est présenté au premier abord comme une énième guerre civile birmane. L'ONU, citée par l'agence Reuters, redit sa crainte que le blackout des télécommunications orchestré depuis 4 jours par les autorités ne cache en fait des exactions commises contre les civils de l'état de Rakhine. La victoire sur la guérilla ne doit pas excuser des crimes contre l'humanité, écrit enfin Burma News International, qui tient déjà le compte des villages de la région soupçonnés de complicité avec la guérilla de l'Arakan qui ont été attaqués ou même bombardés par l'armée régulière birmane, avec à chaque fois des civils parmi les victimes.